Campus Paris.
La relève, c'est 30 minutes avec un invité venu de tous les horizons dont on parle déjà aujourd'hui et dont on parlera encore plus demain. C'est notre Paris aujourd'hui, on parle photographie et géopolitique. Bonjour. Bonjour Aymeric, je crois que j'ai mal noté votre nom, là vous allez me le donner tout de suite. Allez-y.
C'est Aymeric Luisset.
Oui, bonjour Aymeric Luisset, donc je m'étais trompé, il essayait désespérément de me le faire comprendre et je ne comprenais rien. Vous assistez en direct à ma rééducation. En tout cas, quand j'ai écrit le lancement de ce numéro de La Relève, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé dans votre nom. J'ai hésité à employer l'expression « jeune talent ». Vous êtes jeune, vous avez du talent, mais vous avez vraiment déjà une œuvre derrière vous. J'ai été impressionné par tout ce que vous avez déjà fait, que ce soit des expositions ou des livres. Et donc j'avais envie de vous demander pour commencer, êtes-vous un boulimique de travail ?
On va dire que j'aime bien faire des choses.
Et vous n'aimez pas rester à rien faire donc ? Vous n'aimez... C'est souvent ça, les gens qui aiment faire des choses, c'est les gens qui n'aiment pas rester à rien faire.
Je sais pas. En fait, c'est pas que j'aime pas rien faire, c'est que j'ai toujours envie de faire des choses.
Comme vous avez un art, oui, on peut dire ça, un art qui s'intéresse au monde, c'est peut-être aussi que vous avez toujours quelque chose à dire sur le monde.
C'est peut-être ça, en fait.
Donc, tous les deux, on a communiqué par mail pour préparer cette émission. J'ai lu dans votre signature art contemporain et géopolitique, et vous avez effectivement la double compétence, puisque vous avez fait les Beaux-Arts et une maîtrise en géopolitique à Normalsup, c'est ça ?
J'ai fait un master en géopolitique à Paris 1 et à Normalsup.
Vous avez fait le master parce que vous vouliez aborder des thèmes, ou vous les avez fait en même temps ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi les deux ?
Alors, en fait, je travaillais, quand j'étais aux Beaux-Arts, déjà sur des problématiques géopolitiques, mais autant sur certains sujets, j'avais des bonnes connaissances au niveau du terrain, mais j'avais, je pense, pas mal de lacunes au niveau à la fois théorique et au niveau des méthodes, et ça m'a permis de combler en partie ces lacunes en faisant ce master.
C'est-à-dire que pour votre travail artistique, vous aviez besoin de cette théorie de l'autre côté ?
Ben, on va dire que ça m'aide, c'est toujours, je pense que ça aide toujours de savoir plus de choses.
D'accord. Vous définissez comme plasticien, donc vous êtes un plasticien qui regarde le monde. Vous n'avez pas parfois envie qu'on vous définisse comme un géopoliticien qui utilise l'art pour faire son travail ?
Ben, j'aime bien, je préfère plasticien en fait, parce que plasticien c'est ce qui me donne le plus de liberté, on va dire. Ce qui est génial, c'est qu'en tant que plasticien, ben, je travaille pour personne, à part pour moi. Personne ne me dit quel sujet je dois traiter, comment je dois le traiter. Il n'y a que moi qui décide. Donc, ça me convient très bien, en fait.
La question que je voulais vous poser, c'est que quand on est... quand vous faites, comment vous voient les gens qui font de la géopolitique ? Est-ce qu'ils pensent que vous êtes dans le même monde qu'eux ? Est-ce qu'ils pensent que ce que vous faites, c'est une autre manière de faire leur travail ? Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, non, tout à fait. Alors ça, je pense qu'il faudrait leur demander... mais en tout cas, j'interviens régulièrement dans le milieu de la géopolitique pour des conférences, des colloques, etc. Et souvent, c'est vrai que ça les intéresse aussi d'avoir un regard, on va dire, un autre regard sur des problématiques géopolitiques qu'eux-mêmes traitent.
Parce que finalement, on a cette idée qu'un travail universitaire, un travail académique, c'est forcément un livre ou un article. Après tout, pourquoi ça ne pourrait pas être une installation ? Et pourquoi vous ne pourriez pas être cité dans un travail universitaire ?
Sur un travail de recherche comme une thèse ou des choses comme ça, j'ai déjà été cité dans des thèses de géopolitique ou de relations internationales.
Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, comment vous expliqueriez ce que vous faites ?
Alors, on va dire que je travaille sur des problématiques géopolitiques. Et donc au début, je fais un premier travail de recherche qui va être un travail théorique. Donc ça va être lire des bouquins, faire du suivi dans la presse, rencontrer des chercheurs spécialisés sur le domaine que je vais aborder. Et puis une fois que je pense avoir plutôt bien cerné mon sujet d'un point de vue théorique, je vais faire un travail de terrain. Alors après ça va dépendre des terrains, ça va dépendre des sujets. Mais souvent c'est plutôt une approche au début anthropologique. Donc essayer de comprendre au sein d'un groupe d'individus ce qui les a amenés à cette situation, quel est leur quotidien, vers quoi est-ce qu'ils veulent aller. Et puis, parfois même une approche presque psychanalytique sur les individus eux-mêmes. Et une fois que je pense avoir un regard assez pertinent au niveau du terrain. Je vais faire la synthèse à la fois de cette approche théorique, de cette approche de terrain, réfléchir déjà qu'est-ce que je veux dire, est-ce que j'ai vraiment un truc d'intéressant à dire. C'est ça aussi qui est génial en tant qu'artiste, c'est que si je pense que j'ai rien d'intéressant à dire, je vais pouvoir me taire. Et ensuite, comment le dire, quel médium utiliser, parce que ça peut être la photo, mais ça peut être aussi la vidéo, ça peut être l'installation, ça peut être un objet, ça peut être mille choses en fait. Ça peut être
des choses comme ça mixées aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Je me mets pas du tout de limite dans le médium que je veux utiliser. Et ensuite, donc, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique, une retranscription artistique de cette analyse.
Alors, par exemple, j'ai pu voir votre travail à Paris Photo en octobre dernier. Novembre dernier, au Grand Palais. Et notamment la série de photos qui s'appelait Théâtre de guerre. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce que vous aviez voulu faire à ce moment-là? Est-ce qu'on pouvait voir si on venait donc, au Grand Palais?
Alors, la série Théâtre de guerre, en fait, c'est une série que j'ai faite il y a pas mal de temps déjà, où j'ai travaillé...
C'était des très grands formats.
Alors, oui, tout à fait. Il y a différents formats. Il y en a certains, effectivement, qui sont très grands. Il y en a des plus petits. Ça dépend un peu. La première année, j'ai travaillé avec un petit appareil photo pas très performant. Donc, c'était en 2011, hein, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les sous pour avoir un appareil photo plus performant. Donc, du coup, les photos de 2011 se limitent à des formats relativement réduits. Celle que j'ai faite l'année d'après, après avoir remporté un prix qui m'a permis de m'acheter mon premier vrai appareil photo, on va dire. Ensuite, m'ont permis de faire des tirages beaucoup plus grands. Mais en fait, dans ce travail... Donc, c'est un travail que j'ai commencé en 2010. Les premières images, je les ai faites en 2011. Et j'ai continué ce projet jusqu'en 2012. Et j'ai invité des combattants d'un groupe de guérilla kurdes en Irak à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. Donc, c'est-à-dire que quand on est face à ces images... En fait, quand on est face à ces images, il y a une gestuelle qui est une gestuelle propre à la peinture qui, du coup, vient trahir le dispositif de mise en scène. Et en même temps, quand on regarde le cartel, on s'aperçoit qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Alors, du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment cette interrogation sur le réel, sur la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit.
Mais c'est aussi une manière de les rapprocher, non? C'est aussi une manière de rapprocher nous en les remettant dans l'histoire de l'art occidental, ou pas? Donc ça, c'est un deuxième effet que vous n'aviez pas anticipé?
Alors non, pas forcément. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec ma culture, avec Roland Barthes parle de mythologie personnelle, je trouve ça assez intéressant. J'arrive avec ma propre histoire, ma propre culture, ma propre mythologie, entre guillemets, et je vais, je rencontre une autre culture, d'autres histoires, et en fin de compte, ce projet, je l'ai construit aussi avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, et donc, y a des éléments de ma culture, il y a des éléments de leur culture, c'est comme ça que c'est construit. Et le fait de reprendre spécifiquement des mises en scène de peinture classique, pour moi, c'était important, d'autant plus important que j'ai repris des mises en scène de la guerre franco-prussienne de 1870, parce que c'est dans ces peintures que s'est construite la photographie de guerre telle qu'on va la voir apparaître tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on est sur des peintures qui sont plutôt des scènes de genre, donc avec un nombre de personnages assez réduit, ce qui est le fait de la photographie de guerre. Hein, tout au long du XXe siècle, on ne va pas voir des photos avec des centaines de soldats. On a des combattants qui sont représentés dans sa majeure, qui la plupart du temps sont des combattants anonymes, ce qui n'était pas le cas avant. Et d'ailleurs, ce qui explique ce changement brutal dans la représentation, c'est la défaite, en fait. Toute la question va être comment représenter la défaite.
Oui, parce que historiquement, on a le chef de guerre, le roi, l'empereur,
l'en majesté,
éventuellement avec ses armées autour, mais qui sont figurants.
Tout à fait, on voit les armées autour, les généraux, c'est des images très, très schématisées, en fait. On voit la stratégie d'élite, stratégie victorieuse. Là, on est sur des images beaucoup plus proches, avec des soldats anonymes, qui est aussi entre héroïsme du combattant et absurdité de la guerre. Et en fin de compte, et d'ailleurs, il y a beaucoup de peintres, puisqu'on est sur une armée de conscrits, qui vont la vivre, cette guerre. Qui vont la faire, cette guerre. Et d'ailleurs, beaucoup de peintures vont s'appeler « Souvenir de telle bataille ». Et donc, en fin de compte, on retrouve le photographe qui lui aussi est au cœur du conflit. Donc on n'est plus comme avec des peintres comme Gros ou David qui fantasmaient la guerre, qui parfois allaient sur le champ de bataille après la bataille avec un mouchoir sur le nez. On est sur autre chose. Donc après, c'est des peintures qui, en termes au niveau du style, ne sont pas très intéressantes puisqu'on est sur un style, on va dire, très académique. Mais dans la manière de représenter la guerre, moi, ces peintures m'intéressaient particulièrement. C'est pour ça que j'ai repris spécifiquement des peintures de cette période-là.
Puisque vous-même, vous avez parlé de mythologie personnelle, vous mettriez qui dans vos mythes personnels ou quels endroits?
Ben, le truc, c'est que ça a beaucoup évolué. Hein. À chaque fois que aujourd'hui, voyage, que je découvre d'autres cultures, ça va influencer, en fin de compte, mon regard. Après, dans les artistes qui m'ont beaucoup influencé dans ma démarche, il y a Marcel Duchamp, tout son travail conceptuel. Il y a Yves Klein, dont j'adore le travail. Et Yves Klein, c'est quelqu'un qu'on connaît, malheureusement, je trouve, on connaît beaucoup trop l'aspect plastique et pas assez la démarche et le regard qu'il portait sur une société nouvelle, puisque en fait l'œuvre d'Yves Klein, c'est une immense utopie sur une société nouvelle, et chacune de ses œuvres, en fin de compte, ça renvoie à une approche beaucoup plus globale sur cette société nouvelle qui propose. Donc voilà, après il y a plein d'artistes. J'aime beaucoup, par exemple, Orlan, qui est une artiste...
qui a fait de son corps une œuvre.
Qui a fait de son corps une œuvre, qui a un travail très politique et qui est un peu une figure de proue du féminisme dans le monde et en France. Enfin, c'est dans les années 70, quand elle a commencé à se présenter en tant que femme, artiste, etc. C'était quand même... C'était extrêmement difficile, j'imagine. Donc, cet engagement, c'est aussi quelque chose qui me touche. Donc, voilà. Après, je pense que dans sa mythologie personnelle, on est influencé par mille choses.
Dont certaines qu'on ne sait même pas, d'ailleurs, j'imagine.
Tout à fait.
Tout à l'heure, vous parliez de votre travail sur théâtre de guerre. Vous auriez donc absolument pas pu être photoreporter. Vous pensez même comme l'exact inverse du photoreporter.
C'est pas que je me pense comme l'exact inverse, mais c'est simplement que les photoreporters font un travail formidable, etc. Mais c'est pas ce que je recherche, en fait.
Vous disiez vous-même, moi d'abord, si je fais rien, le photoreporter, il doit renvoyer des photos.
C'est ça.
Et puis deux, lui, il est pris par l'instant. Vous avez le temps de les retravailler, de les mettre en scène éventuellement pour dire quelque chose. Lui, il doit montrer l'instant brut. Ça vous intéresse ou pas d'avoir
l'instant brut?
Oui.
Ben, j'ai déjà travaillé dessus.
Peut-être la série dont, on va dire la vérité, dont on parlait avant que l'émission commence, que vous avez fait sur Instagram.
Tout à fait.
Si vous pouvez en parler aussi.
Tout à fait. Alors là, c'est un projet où j'ai fixé une caméra sur le torse d'un combattant rebelle en Syrie et je l'ai invité à filmer 24 heures de sa vie. Donc la vidéo est un plan séquence de 24 heures. Et aujourd'hui, j'ai repensé le projet de manière à toucher un public plus large, notamment via Instagram. Et je fais une capture d'écran de chacune des minutes de ces 24 heures, donc en tout il y a 1440 images, et chaque jour je poste une de ces images, donc ça fait bientôt 2 ans que je les poste.
Vous pouvez donner l'adresse du compte, on peut les voir
C'est avec mon nom, en fait. J'ai ouvert un compte Instagram spécialement pour ce projet, j'en avais pas
donc,
avant.
Émeric Luisset, L-H-U, de toute façon il y aura tout sur le site, mais pour ceux qui veulent aller voir tout de suite, c'est L-H-U-I, 2-S-E-T. Certains ont pu reprocher à Sébastien Salgado d'avoir mis en scène la misère. Est-ce que vous, quand vous faites une photo, à chaque fois, vous posez la question de est-ce que c'est une photo digne?
Alors, après, Salgado, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, notamment pour l'esthétisation qu'il a pu faire dans ses
avec
images.
Avec ses images, ouais, très contrastées, avec une tout lumière, le choix des cadres. Il rend presque la misère glamour, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas,
très esthétique.
Esthétique.
Après, la question de l'esthétisme, pour moi, dans mon travail, est essentielle. Quand on parlait de mythologie personnelle tout à l'heure, de ce qui avait pu m'influencer, il y a un poème qui m'a très fortement influencé dans ma démarche, c'est Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Et je trouve tout ce qui fait la puissance de ce poème, c'est qu'au début on est dans quelque chose d'un peu un jardin d'Éden, etc. Et en fait c'est uniquement dans les derniers mots qu'on comprend que c'est un soldat mort.
La chute est terrible, il a deux trous rouges au côté droit.
Tout à fait.
Je ne me rappelle pas du tout le début, mais je me rappelle.
L'histoire d'un vallon, ouais. Un ruisseau, les rayons du soleil. Enfin, on est vraiment dans le jardin d'Éden. Et je trouve que toute la puissance de ce poème réside dans le fait que, justement, au début, on est complètement séduit par cette espèce de jardin d'Éden. Et à la fin, on se prend une espèce de claque dans le visage. On comprend que c'est un jeune soldat qui a été tué. Et pour moi, c'est un petit peu de cette manière dont je veux utiliser l'esthétisme, c'est-à-dire comme un piège. L'esthétisme, il est là pour capturer le regard. Tout mon travail est toujours très esthétique. J'attache beaucoup de soin à la notion d'esthétisme et de manière à capturer le regard et d'amener les gens, en fait, du coup, ils sont piégés par cet esthétisme, ils vont vers l'image et ensuite, en fin de compte, une fois qu'ils sont dans l'image, bah là, ils peuvent aller plus loin dans l'image, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne sur cette notion d'esthétique, d'esthétisme. Et après, Salgado, je ne suis pas Salgado, donc c'est difficile de parler vraiment sur la manière dont il travaille.
Lui-même a assez répondu. Il a dit qu'il venait d'une culture où la misère était esthétisée depuis toujours et que c'était peut-être les Européens qui ne comprenaient pas la culture brésilienne. Notamment, il avait notamment fait cette réponse-là.
Mais après, en fait, pour moi, du coup, l'esthétisme, c'est pas forcément... C'est pas parce que c'est quelque chose de difficile qu'il faut faire une image vilaine, en fait. Je pense que toute la question, c'est comment on fait son image et qu'est-ce qu'on veut dire avec son image et comment on peut impacter avec son image.
Ouais, sinon, ça serait un peu la double peine pour ces gens-là qui vivraient dans des conditions terribles et qui, en plus, auraient le droit à des photos ou des images moches qui les représentent parce qu'il ne faudrait pas faire du beau avec eux.
Alors, je sais pas, je dirais pas ça, mais...
ça, c'est moi qui le dis.
Mais je pense que... En fait, je pense que ça dépend aussi vraiment de ce qu'on veut faire. En fait.
De ce qu'on veut dire.
Voilà.
C'est ce que vous dites. Dans une interview, on mettra aussi la citation sur le web, vous dites, vous avez cette citation de Lacroix qui est très profonde, qui dit « l'exactitude n'est pas la vérité ».
Tout à fait, l'exactitude ne fait pas la vérité.
Ne fait pas, oui, pardon.
Tout à fait. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, alors, en ayant beaucoup travaillé sur la mise en scène, souvent, on a tendance à rattacher l'idée de mise en scène à l'idée de mensonge, de manipulation, de tromperie. Et en fin de compte, la mise en scène, c'est un procédé. C'est un procédé comme un autre. Et en fin de compte, on peut faire aussi bien mentir une mise en scène qu'une image prise sur le vif, comme on peut dire la vérité avec une image prise sur le vif comme avec une mise en scène. Et l'exemple en est, c'est que par exemple dans le projet que j'ai fait sur la révolution ukrainienne, où j'ai photographié 100 portraits de ces manifestants devenus des révolutionnaires, et avant de les photographier, je leur ai donné un questionnaire où je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. Donc c'est des images que j'ai faites toujours sur le même fond, qui était une porte en tôle calcinée, donc ça fait un espèce de fond un peu noir. C'est des images du coup qui sont posées, puisque je mettais deux scotchs sur le sol, je leur disais de mettre les pieds sur le scotch, après ils prenaient l'attitude qu'ils voulaient, mais c'est des images qui sont posées. Et je pense que ce projet en dit plus sur ce qu'était Maïdan que ne pourrait le dire une image prise sur le vif d'un type debout sur une barricade en train de jeter un cocktail Molotov, où en fonction du texte qu'on y accole, on peut lui faire dire tout est son contraire. Donc en fin de compte, je pense que les deux peuvent mentir. Les deux peuvent dire la vérité. C'est juste des procédés. Et comme n'importe quel procédé, on peut en faire ce qu'on veut.
Si on retourne maintenant au Grand Palais, à Paris Photo, au mois de novembre dernier, donc il y avait ces photos de combattants, théâtre de guerre. Puis il y avait une série de photos bleues. J'ai appris que ça s'appelait des cyanotypes, c'est ça ?
Tout à fait.
J'ai cru comprendre que c'était compliqué à fabriquer. Vous pourrez nous raconter si vous voulez. Un hommage aux réfugiés. Et ce qui était très intéressant dans le dispositif, et je pense que vous y aviez réfléchi, c'est qu'on passait des combattants héroïques aux réfugiés d'un seul coup, alors qu'on oublie parfois que ce sont les mêmes.
Ben, c'est ça qui m'intéressait, c'est justement que ces combattants, j'ai pas mal travaillé avec eux, et donc du coup, tout le temps que j'ai passé avec eux, ben, j'ai tissé des relations, certains sont devenus des amis, on est resté en contact, on s'écrit régulièrement, et j'ai suivi le périple de certains qui sont devenus des réfugiés. Et puis, au début, en fait, je n'avais pas spécialement envie de faire un projet sur les réfugiés. Je me suis dit, pourquoi faire encore un énième travail sur les réfugiés ? Il y en a plein. Qu'est-ce que je vais apporter de plus que ce qui se fait déjà ? Et en même temps, quand je lis des articles sur l'application du Monde, quoi, et qu'à chaque fois qu'il y a un article sur des réfugiés, j'aime bien regarder les commentaires que font les gens. Et on a des commentaires d'une violence qui sont absolument inouïes. où ces réfugiés sont vraiment considérés comme des sous-hommes. Et face à ça, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. D'autant plus qu'en tant qu'artiste, on a une parole publique, et cette parole publique, c'est aussi une responsabilité. Il faut que j'essaye de changer le regard, de déconstruire le regard que certaines personnes portent sur les réfugiés. Et c'est pour ça que donc, j'ai décidé de travailler avec ses amis, donc, qui étaient des combattants kurdes, qui sont devenus quelques années plus tard des réfugiés, et dans l'exposition, en les mettant en parallèle, donc ces combattants kurdes dans ces postures héroïques, dans ces mises en scène que j'ai faites, donc ces combattants kurdes qui aujourd'hui sont héroïsés dans notre société occidentale, de par la lutte assez exemplaire qu'ils ont tenue contre l'État islamique. Et ils sont héroïsés dans nos sociétés, aussi bien par l'extrême gauche que par l'extrême droite, que par le centre, en fait, par la quasi-intégralité du spectre politique. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et alors que les réfugiés sont considérés comme des parias, des parasites, par toute une partie du spectre politique occidental. Et là, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve. C'est les mêmes visages qu'on retrouve 7 ans, 8 ans plus tard. C'est les mêmes personnes, c'est Sorouche, c'est Elan, c'est Hazard, c'est Soran, c'est Nassé, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve. Mmh. Et en fin de compte, comment est-ce qu'on peut héroïser une personne, et une fois que cette personne a traversé la mer, la considérer comme un paria et un parasite? Et c'est ça qui m'intéressait, c'est mettre les gens face
et à, ce moment-là,
à
vous,
cette absurdité.
Et vous, à ce moment-là, votre démarche, c'est de montrer qu'ils sont comme nous, évidemment.
C'est les montrer tels qu'ils sont, en fait. C'est-à-dire, comme chacun d'entre nous, bien entendu.
Ce que je veux dire, c'est que vous avez pris des photos de leur quotidien, des photos très paisibles, très douces.
Oui, tout à fait. En fait, je voulais faire des images les plus banales possibles, en fait. Des images qui pourraient être le quotidien.
Ça paraît incroyable pour un plasticien de vouloir faire des images banales, arriver à faire du banal alors qu'on imagine le contraire, plutôt.
Oui, parce que, d'une certaine manière, c'est toujours les mêmes images qu'on retrouve autour des réfugiés, globalement. Enfin, je me suis aperçu que globalement, on a trois types d'images. On a des images qui vont jouer sur l'événement. Donc, ça va être l'arrestation, ça va être une course-poursuite, ça va être le franchissement d'une frontière, ça va être... On a des images qui jouent sur l'idée de peur, d'invasion, qui sous-tendent cette théorie du grand remplacement, qui est utilisée par l'extrême droite, et même pas que par l'extrême droite d'ailleurs, malheureusement. Et puis, on a des images qui souvent se veulent empathiques, mais qui... bien trop souvent, à mon sens, ont plutôt tendance à faire du misérabilisme. À
quel moment vous avez l'idée d'utiliser la technique du cyanotype et d'une de ses particularités physiques à laquelle je ne comprends rien, mais vous avez essayé de m'expliquer tout à l'heure, j'ai vaguement compris. C'est-à-dire que l'image peut disparaître peu à peu et elle devient toute bleue comme la mer Méditerranée.
Tout à fait. Okay.
Alors, vous aviez déjà utilisé cette technique-là avant ?
J'avais utilisé... Alors, je pense que par rapport déjà à la banalité des images, du coup, c'est ça qui m'intéressait. Donc, c'est de faire des images qui sortaient de ces trois représentations et donc le plus banal possible. Après, sur le choix de la disparition des images en bleu, comme ça, la disparition d'une image, c'est déjà un procédé que j'avais utilisé, en fait, avec un projet que j'avais fait qui s'appelle « J'entends sonner les cloches de ma mort ». Que j'ai réalisé en Irak en 2010-2011, qui est un hommage à un étudiant en journalisme, puisque en 2010, quand j'étais en Irak, j'étais logé sur le campus de l'université de Salah ad-Din, et quelques jours après mon arrivée, il y a un des étudiants de l'université qui a été kidnappé juste devant l'université. Et en fait, il y a pas mal de ses amis qui sont venus me voir, qui m'ont pris à témoin, en fait, en me disant, regarde, Sardache, puisqu'il s'appelait Sardache, écrit des articles où il dénonce la corruption et la cooptation, et du coup, il a été kidnappé. Et ils m'ont montré notamment le dernier article qu'il avait écrit, qui s'appelle « J'entends sonner les cloches de ma mort ».
Oui.
Et dans cet article, il explique qu'il a reçu des menaces de mort, que s'il continue d'écrire, il sera tué. Mais qui ne va pas fuir, qui va rester, qui va continuer d'écrire, qu'il est prêt à mourir. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé son corps, il a été tué. Et je pense que la moindre des choses que je pouvais faire, c'était lui rendre hommage. Et donc du coup, j'ai passé pas mal de temps avec ses amis, j'ai rencontré sa famille, j'ai longuement discuté avec son grand frère, Ils m'ont donné des images de Sardache et j'en ai gardé une. J'ai gardé une photo de Sardache et quand je suis rentré en France, j'en ai fait des tirages papier salé. Alors le tirage papier salé, c'est un peu comme le cyanotypes. Hein. Ça date de la même période, donc début 19e, c'est un des tout premiers procédés photographiques. Sauf que le cyanotypes est bleu et blanc et le papier salé est noir et blanc. Et j'en ai fait des tirages papier salé, j'en ai fait une cinquantaine à peu près, donc au format A3. Et je ne les ai pas fixés. Contrairement au cyanotype, ça, c'est un procédé qui disparaît facilement. Et je les ai enfermés dans une boîte noire. Et pour les un an de la mort de Sardache, je suis retourné en Irak. Et très tôt le matin, quand il faisait encore nuit, j'ai été coller son portrait dans les rues. Et du coup, quand les gens sortaient, ils tombaient nez à nez avec son portrait. Et puis progressivement, avec la lumière du soleil, les images se sont mises à les disparaître pour laisser place à des rectangles noirs. Donc voilà, c'est ce projet que j'avais fait qui a été un premier travail sur la disparition. Et j'ai repris ce procédé en fait, dans ce travail sur les réfugiés, puisque ces images qui disparaissent, qui donnent place à la fin à des monochromes bleus, pour moi c'est une double métaphore. Comme vous le disiez, c'est effectivement une métaphore de la mer Méditerranée où beaucoup de réfugiés disparaissent. Mais le bleu, c'est aussi la couleur de l'Europe. Et en fait, tous ces réfugiés qui arrivent, eh bien, ils font partie du futur de l'Europe et c'est des futurs Européens.
Je vais vous poser une question qui pourrait sembler désagréable mais qui ne l'est pas, qui est vraiment une question que je me pose. Dans le monde dans lequel on vit, qui est saturé d'images, est-ce que vous croyez encore qu'une image peut changer quelque chose ?
Alors, je pense que c'est une très bonne question parce que c'est une question que je me pose souvent. Et quand je fais mes projets, parfois j'ai l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Jusqu'à certaines fois où des gens viennent me voir et me disent ben, ça a changé mon regard sur tel ou tel sujet, etc. Et là, je me dis ben, finalement, j'en ai pas mis que dans l'eau. Et en fin de compte, je pense que qu'à travers l'art, on peut changer les choses d'une manière indirecte, bien entendu, puisque c'est pas l'art qui va faire changer la société, mais en revanche, à travers l'art, on peut, je pense, influer le regard des gens, essayer de changer le regard des gens, sur la perception des gens sur certaines choses, et du coup, faire qu'ils changent leurs attitudes, qu'ils changent leur manière de faire. Et c'est quelque chose auquel je crois. C'est des discussions que je peux avoir parfois avec certains artistes plus âgés qui sont un peu désabusés et qui vont me dire « Non, mais de toute façon, ça ne change rien, etc. » Je veux continuer d'y croire et je me bats pour ça. Et donc voilà, c'est essayer de changer les regards et même si sur 1000 personnes ou sur 10 000 personnes qui vont voir l'expo, bah, il n'y aura que 10 personnes qui auront changé leur regard, bah, c'est déjà ça.
Et il y a peut-être aussi une nécessité intérieure, il y a peut-être aussi vous qui avez fait quelque chose qui vous est utile à vous d'abord, peut-être aussi, c'est peut-être aussi un peu égoïste de faire une œuvre. Et c'est pas un reproche, hein, on est tous aussi égoïstes, non ?
Non,
moi, je me fais plaisir en faisant une émission de radio. Hein.
Après, en fait, effectivement, je prends plaisir à faire mon travail parce que, je sais pas, c'est... En fait, je pense que ce qui me passionne vraiment aussi dans ce travail, c'est vivre l'histoire en construction. C'est quelque chose qui est lié, bah, qui est lié un peu à mon enfance aussi, où très jeune, en fait, j'ai découvert que l'histoire était multiple, où bah, les premières œuvres que j'ai découvertes étaient aussi liées à l'histoire, puisque je les ai découvertes dans les livres d'histoire à l'école. Et puis j'ai découvert très tôt que l'histoire était multiple, parce que j'allais souvent en vacances chez ma grand-mère, qui avait gardé ses bouquins d'histoire de quand elle était jeune, donc dans les années 30. Et en lisant ces livres, je m'apercevais que le regard qui était porté sur des sujets que moi j'apprenais dans les années 90, divergeait totalement avec ce que j'apprenais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas une histoire. En fait, l'histoire, c'est multiple. C'est quelque chose qui change en fonction des politiques, en fonction des périodes, en fonction des zones géographiques. Et c'est quelque chose qui m'a fasciné. J'ai voulu vraiment comprendre, mais alors du coup, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Qu'est-ce qui a amené ces gens vers ça ? Et aujourd'hui, mon travail, c'est ça, en fait. C'est aller dans les lieux où l'histoire se construit et vivre cette histoire, essayer de la comprendre de l'intérieur et essayer d'en témoigner.
Il nous reste très très peu de temps, mais je voulais absolument vous poser cette question. Vous parlez très calmement, vous avez une voix très calme, vos photos sont assez douces, vous mettez jamais en colère, parce que j'imagine que vous voyez des choses affreuses qu'on n'imagine même pas. Vous êtes jamais en colère ?
Ben, parfois, quand je vois certaines choses, on ne peut pas dire que je sois en colère. Ça a plutôt tendance à m'attrister et à me révolter. Et ça me donne d'autant plus envie de continuer à faire mon travail et de continuer à me battre pour ce que je fais.
C'est peut-être pour ça, comme on disait tout à l'heure, vous n'arrêtez jamais parce que vous avez toujours des motifs de révolte et je crains que ça continue.
Malheureusement.
Alors, on pourra vous voir le jeudi 30 janvier à 19h. Vous serez à la Maison européenne de la photographie au 5 rue de Fourcy où vous dialoguerez avec Maurice Chérif sur la notion de territoire. C'est ça? J'ai pas faux.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Vous venez d'écouter La Relève. C'était déjà le 12e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Hugo Lain, préparée et présentée par Christophe. On se retrouve dans 15 jours à la même heure et sur le site de Radio Campus, rubrique La Relève. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup.